En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mario Del Monaco, Caruso, Pavarotti, Maria Callas, ce sont de sublimes voix lyriques, mais nous avons tous une voix, et c'est vrai qu'on n'y prête pas toujours attention, et pourtant dans notre gorge, dans notre corps, on a un pouvoir immense qui peut modifier le cours de notre vie, rien que ça, notre rapport aux autres. Et notre invité est là pour nous dévoiler ces pouvoirs de notre voix. Jean-Habit Boll, bienvenue au micro de la curiosité. On tremble un peu en vous parlant parce qu'on se dit que forcément vous écoutez nos voix, vous les jugez peut-être. Si vous avez des choses positives à dire, n'hésitez pas, hein, pendant l'émission on va parler un peu pour que vous habituiez à nos voix. Vous êtes chirurgien ORL et phoniatre, et pour vous, l'homme possède un trésor inestimable. Pourquoi cette voix n'a pas de prix ?
Tout simplement parce que c'est un moyen de communication exceptionnel sur 7 milliards d'individus. C'est notre lien avec les autres. Mais la chose absolument passionnante dans la voix humaine, c'est qu'elle a deux regards. Le premier, c'est le regard des mots. Le mot, vous parlez français, vous parlez anglais, vous allez être prisonnier du mot. Mais cette déferlante émotionnelle fait que quand j'ai un aborigène qui va venir m'engueuler, par exemple, je comprends qu'il n'est pas tout à fait sympathique. Donc dans le monde émotionnel de la voix, dans la façon dont vous allez parler, c'est une puissance impressionnante du pouvoir sur l'autre, mais du pouvoir également, c'est ça qui est quand même paradoxal, sur soi-même.
Pour faire genre mon séducteur avec Sidonie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté des graves.
Oui, mais vous les avez déjà spontanément, vous n'avez pas besoin d'en rajouter.
Non, mais j'en ai rajouté encore, parce qu'on ne sait jamais, ça va peut-être enfin marcher. Oui, alors là... Ça fait un an et demi que j'attends. Hein. Non, évidemment, c'est pour rire. Mais pourquoi le grave ? Pourquoi c'est un argument, un atout de séduction ?
C'est une question fabuleuse, parce qu'elle nous ramène à notre cerveau reptilien. Le brame du cerf, qui est tout simplement dans les graves très forts, va nous donner la puissance mâle par rapport à la femelle, si je puis dire. Mais dans la structure même de la voix, puisque la voix c'est quoi ? L'énergie c'est les poumons, les cordes vocales c'est la vibration, et on a la caisse de résonance au-dessus. Et bien dans la voix, lorsque vous émettez des graves, vous faites sécréter, homme ou femme d'ailleurs, les graves ça veut pas dire homme ou femme, une femme peut avoir des graves superbes, et elle a habituellement des graves superbes, sinon elle peut pas séduire. Ça sécrète en 10 à 20 secondes une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du désir. Et lorsque ces graves sont relativement appuyés, et j'en veux pour preuve que si vous êtes en train d'être un soir avec une femme qui a 40 ans, mais vous lui faites écouter une chanson de son adolescence entre 12 et 20 ans, là déjà vous allez sécréter une certaine forme de désir, parce qu'on la ramène dans un monde qui est un monde du désir, un monde de séduction. Là-dessus, avec une voix grave, oui, vous créez une sécrétion d'ocytocine, et à ce moment-là, l'hormone du désir se met en marche, c'est l'hormone de la rencontre. Et c'est la raison pour laquelle les graves, en revanche les aigus, sont quelquefois déplaisants. Alors quelle est la raison première dans ce cerveau reptilien ? C'est que lorsque nous sommes fœtus dans le ventre de notre mère, eh bien nous entendons les voix graves, car les voix aiguës sont absorbées par le liquide amniotique, et ces voix vont tatouer notre cerveau à ce moment-là.
Alors, on parle politique un peu.
Ah oui, parce que la voix, vous l'avez d'ailleurs un peu abordé, Jean-Habit Boll, la voix compte plus que les mots prononcés, souvent, parfois. Oui. Et c'est le cas dans les discours politiques. C'est vrai que naïvement, on pense que ce sont vraiment les mots qui vont nous convaincre, ou au contraire nous écarter du propos. Mais c'est la mélodie, en fait, que travaillent vraiment les femmes et les hommes politiques pour nous parler.
La mélodie, nous convaincre. Les mots sont bien sûr nécessaires. Mais pour qu'un homme politique arrive dans son discours à nous convaincre, quelque part, il faut qu'il y ait un charme, bien évidemment, donc un charisme, et puis un tout petit défaut qui fait qu'il y a une petite imperfection. C'est-à-dire qu'on l'écoute, mais quelque part, il y a un grain dans la voix. Ce grain va lui donner une signature.
Une identité.
Identité. Et dans cette signature, quelle va être, par exemple, si on prend Nicolas Sarkozy, on va prendre un exemple très concret.
Alors, je vous interromps parce qu'on va prendre plusieurs exemples.
Ah, d'accord.
Et notamment Nicolas Sarkozy et des Français.
On a un autre.
Mais on commence par les Américains. On va commencer avec Donald Trump.
Well, it's collusion. In business, you go to jail for that. But it's collusion. Where they're coming together because they're getting beaten badly. Cruz is getting absolutely killed.
Alors on cherche pas à traduire, mais on cherche à analyser la voix. Ça dit quoi, la voix de Donald Trump ?
Un, il y a un rythme vocal. Deux, le discours de Trump est relativement simple. Martin Luther King disait « I have a dream ». Obama dit « Yes, we can ». Et lui a tel ce discours qu'en France marcherait pas du tout, qui est un peu ce discours de prêcheur.
C'est
qu'il vient, il vient quelque part protéger. Je suis le protecteur. Mais il y a un problème. C'est que pour qu'une voix d'un politique fonctionne par rapport à ce que l'on va écouter, d'emblée, il faut qu'il ait un discours d'expert. Pour le comprendre, pour aller et pour qu'il vienne nous séduire en dehors de la voix, en dehors des graves, en dehors des silences, il faut un paramètre fondamental où on a confiance en lui parce qu'on peut presque anticiper ce qu'il va dire et dans son discours d'expert, on sait de quoi il parle.
Ah, j'aimerais bien que vous nous décryptiez la voix d'Hillary Clinton maintenant, Jean-Yves Bidbol.
No bank can be too big to fail and no executive too powerful to jail. You can count on it. Now the real difference is in this race.
Un vrai débat de voix.
Elle,
hein.
Elle est assez grave, la voix d'Hillary Clinton.
Un, elle est grave, mais deux, elle a corrigé un défaut, puisque je connais très bien les États-Unis pour différentes raisons. Et le coach vocal avec elle, elle a travaillé pendant quelques temps, a montré qu'elle ne devait pas terminer dans les aigus. Car à ce moment-là, vous perdez complètement le charisme. Et il faut qu'on termine sur une voix relativement grave et sur un silence qui laisse l'autre, quelque part, venir avec vous lorsque vous parlez. Car une voix qui va partir dans les aigus, comme dans certains duels politiques qu'on a connus à la télévision, et à ce moment-là, oui, on perd, entre guillemets, la possibilité d'avoir un pouvoir sur l'autre.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
International, c'est plus brutal, rücksichtslos, c'est presque unser Volk aus.
Jamais, non, pas une seconde.
La France ne crut que l'ennemi n'était pas l'ennemi.
Révolution est unidad, est luchar por nuestro sueño de justicia.
From sea to shining sea, yes, we can. Thank you, New Hampshire.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Malraux, évidemment, et avant lui, Obama, De Gaulle, Castro, Adolf Hitler. On explore les pouvoirs de la voix dans la curiosité avec le docteur Jean Habitbol, chirurgien ORL, phoniatre. Vous publiez justement le pouvoir de la voix aux éditions Alary. Malraux, vous en parlez dans votre livre.
Ah oui, c'est fantastique.
C'est une voix...
Ah non, mais entre là, Jean Moulin...
plus marquante que ça, c'est difficile.
Parce que c'est une voix dramatique. Ouais. C'est les voix de ces gens juste après la guerre, ou même de l'avant-guerre, qui n'avaient pas de micro, qui se servaient pratiquement pas de micro. C'était les vraies voix de comédiens, de tragédiens. Ces politiques étaient des acteurs de la voix. Aujourd'hui, vous avez cette espèce de confort où on parle tranquillement avec un micro et la télévision ou la radio est un amplificateur émotionnel impressionnant où je peux parler très doucement avec vous. Mais dans une salle avec 3000 personnes où il fallait quelquefois parler avec un micro qui dérivait, il fallait donner du pouvoir à sa voix, mais savoir la placer et savoir comment jouer avec les silences. Car lorsque vous êtes devant un auditeur, peu importe, vous jouez doucement, vous pouvez presque tricher. C'est une voix du corps à corps. Mais la voix dans un stade, c'est pas un voix corps à corps.
Non.
C'est un voix l'individu par rapport au collectif. Et quel collectif à cette époque-là? Quand on écoute De Gaulle, c'est impressionnant. Dans toutes ces, je mets dans le livre toutes ces époques de sa vie, 40, 45. Et l'histoire la plus extraordinaire de De Gaulle, c'est quand j'étais en première année de médecine, en mai 68. On était tous, bien sûr, en train de râler comme des fous, en disant « ça va pas ». On l'écoutait, on le regardait à la télévision, il ne nous avait pas impressionnés. Mais à un moment donné, il est 16h35, 29 mai, De Gaulle parle, l'écran est noir. Et là, la voix seule vient nous perturber, vient tatouer notre imaginaire en disant « attention, il y a l'absence du père. Attention, on voit quelque chose qui nous impressionne. » Et cette voix grave, c'est la France, c'est pas l'individu. Et c'est là où était la force.
Le silence, quel pouvoir, la voix, quel pouvoir. Un bel exemple, tiens, Jacques Chirac, Premier ministre, face à François Mitterrand, président de la République, à l'occasion de la présidentielle, nous sommes en 1988, écoutez.
Oh, naturellement, sur le plan de la démagogie, c'est excellent de dire « on fait payer les riches ». Mais qui n'a pas cet objectif, naturellement? Mais lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une technique qui, au total, fera le malheur des autres, et ça, on ne le leur dit pas, alors je dis attention.
Ce sont les travailleurs, mais ça paraissait extraordinaire, votre phrase, ce sont les travailleurs qui paieront les pots cassés de l'impôt sur les grandes fortunes.
Naturellement.
Nous continuons vraiment de vivre sur d'étranges nuages.
Comment les deux hommes utilisent-ils le pouvoir de leur voix et le pouvoir du silence, Jean Habitbol?
Pas du tout de la même façon. L'un est en position tranquille, il est président. L'autre est le challenger.
C'est pas le même rythme.
Pas le même rythme vocal du tout. Dans un cas, il y a une avalanche de mots. qu'on a retrouvé quelque part d'ailleurs lors de l'avalanche de mots dans le duel Ségolène Royal Sarkozy à l'époque.
Mmh. Donc Jacques Chirac parle très vite.
Voilà.
Il a peu de temps pour convaincre.
L'autre est tranquille, avec cette force tranquille, et il va poser ses silences en sachant parfaitement ce qu'il dit, en appuyant sur les mots qu'il dit, mais sans forcer, sans en rajouter. Et c'est là la force.
C'est quoi un silence efficace dans un débat politique ou dans un discours politique?
C'est un silence dans lequel on attend la suite et pas on est en train de sortir en disant bon, il parle pas bien, on va prendre un café.
Il s'est endormi, oui. Voilà.
Ouais.
C'est le silence de l'acteur.
Ça dure
et ce que je disais avec un
quelques secondes
que je trouve remarquable, que vous connaissez évidemment, qui est André Dussolier, c'est que pour moi, une vraie voix, c'est une voix sincère. C'est une voix qui va parler. Alors bien sûr, on peut tricher légèrement, mais dans cette sincérité du moment, c'est l'interprète de ce qu'il va donner, et le silence vous tient en suspens. Il vous demande, attends, chut, tais-toi, on va attendre ce qu'il va dire. Ça, c'est le silence qui va pouvoir parler beaucoup plus que les mots.
Alors ça peut peut-être paraître étonnant comme ça, mais figurez-vous que Nicolas Sarkozy est le roi du silence.
En 2007, vous défendiez les tests ADN, aujourd'hui il semble enterré. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
J'essaye sur cette question si difficile de l'immigration que nous ne soyons pas dans des postures idéologiques, mais que nous ayons des résultats, que nous soyons efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace ? Je n'ai jamais cru à l'immigration zéro.
Alors c'est vraiment incroyable, Nicolas Sarkozy, chapitre presque phrase.
Mais c'est un avocat.
Mais accroché.
C'est un avocat. Donc il va jouer avec deux choses que l'avocat connaît par cœur, la rhétorique et l'éloquence. Et c'est deux armes fabuleuses pour le pouvoir de la voix. Mais encore plus lorsqu'on a un polype, un nodule, ou on a une voix un peu éraillée comme ça, est-ce que ça va nous gêner ? Certainement pas. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui vient vous voir avec une signature vocale particulière, il est souvent pas prudent de vouloir absolument soigner ce défaut vocal, car lui, à lui seul, peut donner un pouvoir.
Dans votre livre, Le pouvoir de la voix, qui est aux éditions Allary, vous racontez, Jean Habitbol, que les femmes et les hommes politiques sont des professionnels de l'empathie vocale.
Oui, je vais vous donner peut-être une expérience incroyable qui a été faite en Wisconsin, aux États-Unis, avec deux rongeurs. Pour expliquer l'empathie.
Ouais.
Et après, on a fait des tests, évidemment, d'IRM fonctionnels chez l'homme pour voir comment ça fonctionnait. Une région s'allume quand l'autre va souffrir, encore plus que la personne qui souffre. Eh bien, on a pris un rongeur qui... Ils sont deux, et il y a une vitre entre les deux. Ouais. Et ça, je raconte dans le livre. Et à ce moment-là, il y en a un qui, à chaque déclic, eh bien, il y a une nourriture qui arrive et il peut manger. Mais au même déclic, l'autre reçoit une décharge électrique qui le paralyse. Au bout de 5 fois, le rongeur en question ne mange plus et meurt. Alors que l'autre, lui, qui a reçu les charges électriques, continue à vivre. C'est ça l'empathie. C'est qu'on va vivre par procuration la souffrance ou la jouissance de l'autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pareil sur le désir qu'on va avoir. Et à partir du moment où on entend quelqu'un, quel qu'il soit, il faut qu'on soit dans une empathie. Et cette empathie, la force de la foule, absolument extraordinaire, puisque la foule, quelque part, anesthésie la conscience individuelle, puisqu'on n'est pas responsable, mais est un amplificateur émotionnel impressionnant, et la foule peut devenir quelque chose de superbe, mais elle peut devenir Hulk lorsqu'on s'appelle Hitler.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas
Hugues. Céline Dion, John Cooker, quelle voix, quels sont ses pouvoirs de la voix, comment on la maîtrise, comment on la bonifie. On en parle avec Jean Habitbol, chirurgien ORL et phoniatre. Cette voix de John Cooker, incroyable. Pourquoi il chante comme ça ?
Parce qu'il a... Il nous a quittés. Il avait un défaut, entre guillemets, sur les cordes vocales, qui est qu'on appelle, en fait, comme un polype, si vous voulez, donc, comme une espèce de bouton sur la corde. Sachez qu'on n'a que 2 cordes vocales. Que des fois, les gens me posent la question, on n'a pas 52.
C'est pas un violon, hein.
On a 2 cordes vocales. Ces cordes vocales frappent l'une contre l'autre. C'est comme si les mains, tout simplement, vous tapez l'une contre l'autre. Maintenant, si sur une main, vous avez une petite balle de ping-pong entre les deux, au moment où vous allez taper dessus, entre vos deux mains, il va y avoir un bruit qui n'est pas tout à fait le même. C'est une image, mais c'est exactement cela. Mmh. Et Garou a une signature particulière de sa voix. Quand on l'a vu jouer Quasimodo dans Notre-Dame, c'est impressionnant. Il était à 4 pattes ou presque, et il a fait ce scénario pendant pas mal de temps. Compression pulmonaire, l'énergie de la voix qui est les poumons, il a une puissance hors pair. Il défie la science, comme Aznavour défie le temps. Je veux dire, ça fait partie de ces deux personnages qui sont quand même impressionnants sur le plan de la longévité pour Aznavour et de la puissance vocale depuis 15 ans de Garou, ou de Florent Pagny qui s'est amusé avec la voix entre être un ténor d'opéra ou un baryton et puis d'être un chanteur de variété.
Docteur Abitbol, vous avez des chanteurs connus dans votre clientèle, on va pas les citer parce que vous pouvez pas le faire, évidemment, c'est du secret médical, mais comment vous faites? Est-ce que vous utilisez des outils, des objets pour voir comment ça se passe à l'intérieur?
Oui, c'est très simple, c'est une technique qui est au point maintenant depuis les années 80, qui consiste à mettre un fibroscope, c'est une fibre optique dans laquelle on peut regarder avec une caméra en relais, mais le truc passionnant, c'est qu'on passe par le nez, donc on va pas jouer sur l'articulé, parce que finalement, comment l'homme parle ? Bien sûr que les animaux ont des cordes vocales, évidemment, mais ils ne parlent pas. C'est le langage articulé. Parce que si je passe par la bouche et que je vous fais tirer la langue pour faire un A, aussi doué que vous soyez, vous ne pouvez pas chanter.
Bien sûr.
En revanche, je passe par le nez, par la fosse nasale droite ou gauche, et à ce moment-là, par la fosse nasale, on descend dans le toit du larynx, on passe donc par la caisse de résonance, et d'en haut, tranquillement, je regarde la cathédrale vocale. Je regarde cette chose absolument superbe, comment fonctionnent ces cordes.
Donc vous les faites chanter, parler, imiter,
et ils chantent pendant 20 minutes. Notre pauvre Laurent Gérard, que j'ai martyrisé comme Garou d'ailleurs pendant plus de 20 à 30 minutes, pour comprendre, il chantait avec cette fibre optique, et je comprenais comment il truquait sa voix. C'était un acrobate du larynx, qui avait des cordes vocales asymétriques, et grâce à cela, on avait l'instrument, le luthier, on avait le Stradivarius.
Alors elles sont comment les cordes vocales de Laurent Gérard?
Elles sont comme les vôtres et les miennes, mais un tout petit peu différentes. Mais,
ah, c'est un secret.
Mais le génie, c'est le Stradivarius peut-être, mais c'est comment la main qui conduit l'archer sur le violon va jouer. Vous me donnez un Stradivarius, je joue pas de violon, ça va être affreux. Maintenant, Laurent Gérard, ou Garou, ou Florent Pagny, ou d'autres encore, ou Céline Dion, par exemple, on l'a écouté il y a quelques instants, savent jouer ce Stradivarius. Donc oui, le côté du cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion, va jouer sur ce cerveau gauche, qui est le cerveau de la raison. Et pour être un bon chanteur, un bon comédien, il faut bien sûr connaître la technique. Mais bien au-delà de cela, il faut oublier la technique pour pouvoir jouer avec sa voix.
Jean Abitbol, parler, c'est le propre de l'homme. Est-ce que nous aurions pu ne pas parler si on était resté à quatre pattes, par exemple?
C'est une bonne question, comme dirait l'autre. Oui, mais on est obligé de revenir à un petit peu à 300 000 ans, bien plus loin, à 4,5 millions d'années. C'est un très beau voyage. Dans l'ADN, en 1999, on a découvert qu'il y a un gène de la voix. Il y a 4,5 millions d'années, on a su que l'homme pouvait parler. Alors, on n'avait pas d'enregistrement. Comment on a fait ça? Comment c'était possible? On a pris le crâne, on a fait un moule avec de la pâte à modeler, et on a été chercher l'empreinte sur ce crâne de la zone de Wernicke et la zone de Broca, qui sont les zones de la parole qui existaient déjà. Donc l'homme pouvait parler. Comment? Je ne sais pas, mais il pouvait déjà parler. Pour pouvoir parler, le Graal de l'homme, c'est quoi? Quelle est cette puissance qu'il a? C'est ce larynx qui descend de la première vertèbre cervicale à la cinquième vertèbre cervicale. Donc, il descend dans la gorge. Et en descendant dans la gorge, le Graal devient, lui, le réceptacle de l'articulé et le réceptacle de la voix humaine.
Est-ce que ça veut dire que c'est en se relevant que l'homme a pu à parler? Pas le seul critère, c'est ça?
Alors, il y a plusieurs critères, tout à fait. La verticalité de l'homme est un des éléments essentiels, certes. Dans la mesure où, de sa verticalité, il a permis trois choses différentes. La première et la plus importante, c'est le développement du cerveau au niveau du lobe frontal, qui s'est complètement développé, beaucoup moins développé chez le singe, et donc cette vertige, premier point. Deuxième point, de créer, c'est un peu technique et je suis désolé, mais c'est fondamental, l'axe entre l'axe vertébral et le crâne est de 90 degrés chez l'homme, 120 degrés chez le singe. Donc il n'a pas du tout la même verticalité. Troisième point, la descente du larynx, qui descend, alors ça c'est passionnant, parce qu'il descend de la première vertèbre cervicale à la quatrième. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nourrisson, jusqu'à l'âge de 18 mois, peut parler, entre guillemets, dire pleurer, peut respirer surtout, et peut avaler en même temps. Puisque quand on est au niveau de la première étape cervicale, le circuit air et le circuit manger ont des circuits différents. Dès qu'il descend, c'est horrible, entre guillemets, parce que dès qu'il descend à la quatrième vertèbre cervicale, essayez de faire les deux maintenant, essayez d'avaler en essayant de respirer, on est mal. C'est des fausses routes. Là, c'est terminé.
Donc ça permet au nourrisson de téter, tout simplement.
Eh bien, il peut téter pendant une heure et demie, d'accord, outre le plaisir qu'il a de téter le sein de sa mère, qui est absolument extraordinaire, on le voit dans le regard du nourrisson, eh bien, il peut se nourrir. Et d'où vient ce fait? C'est que les animaux tous les mammifères, sauf l'homme, peuvent faire ça à l'âge adulte. Et pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est bien sûr de l'anthropomorphisme, on se dit tout simplement qu'à ce moment-là, eh bien, ils peuvent manger autant qu'ils veulent et pour ne pas attendre le prédateur.
Le pouvoir aussi de la voix maternelle. Pourquoi les hommes ont des voix différentes des femmes ? Toutes ces questions et toutes ces réponses sont dans votre livre, Jean Abitbol, Le pouvoir de la voix, c'est aux éditions Alary. C'était absolument passionnant. Merci à vous.
Merci à vous.
La curiosité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 14h avec...
Ce serait pas de la bonne musique californienne,
oh,
ça.
Allez,
une balade aux États-Unis au son de la musique californienne avec George Lang.
Et puis, on va découvrir un club très particulier. Non, c'est pas une blague, celui des péteurs. Bah oui, c'est un art de péter depuis des siècles.
C'est un art qui passionne les artistes, les écrivains depuis des siècles, comme vous nous l'avez dit. On essaie de se rattraper. Après les infos, vous retrouverez Éric Jean-Jean qui recevra dans son grand studio Benjamin Biolay.
J'ai eu le coup du couffin, c'est comme un coup de foudre. Les filles sont belles, les filles sont libres. Je suis fatigué, suivre.
Et les curieux sont libres aussi. Bon après-midi et à demain sur RTL.